France Inter, il est 7h30. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la première association de lutte contre les pannes d'ascenseurs. Ces pannes qui pourrissent la vie des quartiers. Des habitants de la région parisienne exigent désormais un droit au transport vertical. Reportage à suivre. Doit-on recourir à l'armée pour le prochain épisode des Gilets jaunes? La controverse bat son plein depuis hier. Extrait dans ce journal du face-à-face hier soir à la télé entre les pour et les contre. Dans l'actualité également, les chefs d'État européens se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour décider de l'avenir du Brexit. Europe encore avec la visite du président chinois en Italie avant d'arriver dimanche en France. On parlera également d'un robot pour aider les femmes victimes de violences à prendre la parole et de jeunes écoliers sensibilisés au langage du cinéma pour mieux développer leur esprit critique.
Je vous rappelle que le pédiatre Aldo Nahouri qui publie des bouts d'existence aux éditions Odile Jacob est l'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Quand il ne marche pas, Sébastien, il peut devenir un véritable handicap social.
L'ascenseur, premier moyen de transport en France. L'ascenseur très souvent en panne dans les quartiers populaires, au point qu'un collectif d'habitants a vu le jour il y a 2 ans en Seine-Saint-Denis. Leur nom, Plus sans ascenseur. L'association sera lancée officiellement demain, pour mettre la pression sur les pouvoirs publics et pour venir en aide aux victimes de ces pannes. En 2 ans, 150 cas ont été recensés, des gens bloqués, interdits de sortir, parfois en danger. Reportage dans une tour HLM de Saint-Ouen, Rémi Brancato.
Vincent nous ouvre la porte de sa tour HLM de 18 étages.
J'habite là, la tour de l'angoisse.
Comme souvent ici, dans le quartier du Vieux Saint-Ouen, l'un des deux ascenseurs ne répond pas.
Non, vous voyez, ça a été comme ça tout le week-end, les deux en panne. Et bah voilà, encore en panne.
Moi je suis au 8e, mais les gens qui habitent très haut ne sortent plus de chez eux dans ces cas-là.
Car Vincent marche avec des béquilles depuis 2014, depuis un accident, justement dans l'ascenseur.
La cabine a décroché, donc s'est écrasée en bas. J'ai été victime de fractures des membres inférieurs, ce qui fait que je suis handicapé depuis. Travailler dans la restauration, je ne peux plus travailler.
Grâce au collectif Plus Sans Ascenseur, il a un nouvel avocat pour tenter de toucher des indemnités. Charles Morel, qui défend habituellement les habitants confrontés à des pannes.
C'est vraiment de faire en sorte que les habitants soient conscients de leurs droits, qu'ils ne soient pas enfermés, je dirais, chez eux, lorsque les ascenseurs ne fonctionnent plus. C'est ça qu'il faut changer.
En 2 ans et demi, le collectif Plus Sans Ascenseur est déjà intervenu dans plus de 150 immeubles en Ile-de-France. Fouad Benhamed, qui a lancé l'association, veut maintenant faire bouger la loi.
L'ascenseur est le premier moyen de transport en France avec 100 millions de trajets par jour. Quand la SNCF n'a pas de train, ils mettent à disposition des cars. Nous, on part de ce principe-là.
Et il défend donc un amendement à la loi mobilité, examiné en ce moment par le Sénat, pour faire reconnaître un droit à la mobilité verticale.
Reportage à retrouver en longueur sur franceinter.fr.
7h33, Sébastien, l'intervention de l'armée lors des manifestations de samedi prochain continue de faire débat.
L'utilisation du dispositif antiterroriste Sentinelle pour garder les bâtiments publics a donc fait monter la température. Hier, sur le plateau de BFM TV, qui accueillait en studio 6 chefs de partis politiques, Stanislas Guérini, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Marine Le Pen et François Bayrou, avec hier des échanges musclés entre d'un côté le patron des Insoumis et la présidente du Rassemblement National contre le recours aux militaires, et de l'autre pour le MoDem, François Bayrou, favorable au recours à l'armée.
Une erreur totale de faire ça.
D'accord, mais écoutez, franchement, on est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout...
Contre qui, Monsieur Bayrou? C'est dans
pas
les gares.
La même raison.
Contre les
enfin,
terroristes.
François Bayrou, ils sont dans les gares et ailleurs.
Ils
pas
sont
aux
dans les gares
terroristes
et ailleurs.
Pas aux gens qui sont pas contents.
Eh bien, moi, je considère.
Franchement, François Bayrou, je vous reconnais pas. Vous voilà
très
maintenant
bien.
Pour les militaires qui passent le maintien de
oui,
l'ordre.
Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des
et
mois
qu'est-ce qui se passe après,
et des
François,
semaines
qu'est-ce qui se passe
et des mois. Non, mais on n'a pas besoin de ça.
Mais alors, on a besoin de quoi?
Oui, mais
de quoi parlez-vous? Si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites qu'il faut protéger
excusez-moi.
Le bâtiment, quelqu'un vient quand même, qu'est-ce qu'il fait? C'est un métier,
dit.
La police.
Voilà Jean-Luc Mélenchon qui, à un autre moment de l'émission, a lancé une sorte d'appel au calme pour les épisodes à venir, sommé de préciser s'il appelait ou non à l'arrêt des violences. Le patron des Insoumis a lancé « Pas ça les jeunes, faites pas ça parce que ça ne nous mène nulle part ». Direction Bruxelles pour un Conseil européen à partir d'aujourd'hui, avec une fois de plus le Brexit qui s'invite au dernier moment. Les les chefs d'État européens s'apprêtent à accepter l'idée d'un report du Brexit à la demande de Theresa May, qui souhaite un report de courte durée jusqu'au 30 juin. Mais les Européens, eux, pourraient n'accepter ce report que jusqu'au 23 mai, date des élections européennes. Actualité européenne encore avec la sanction à minima hier à l'égard du très controversé Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Il a été suspendu provisoirement du groupe parlementaire de la droite européenne. Suspension en raison de ses dérapages contre Bruxelles ou contre les migrants. Mais ce n'est pas seulement ses propos, ses provocations qui inquiètent ses collègues députés européens. C'est aussi son régime, ses politiques, accusés en Hongrie d'être totalement clientéliste et corrompu. À Budapest, les précisions de Florence Labruyère.
Ce n'est pas un système classique de pot de vin glissé sous la table. En Hongrie, la corruption est organisée au plus haut niveau de l'État. La majorité des marchés publics sont remportés par une poignée d'oligarques proches du Premier ministre. Exemple, le Rince Mészáros, un camarade d'enfance de Viktor Orban, devenu en quelques années l'homme le plus riche de Hongrie grâce aux fonds européens. Car la Hongrie est l'un des États membres qui a le plus bénéficié de l'argent communautaire. 25 milliards d'euros reçus entre 2013 et 2020. Assainissement des eaux, rénovation d'hôpitaux, tous ces chantiers financés par les contribuables européens sont une manne pour le clan de Viktor Orban. Car les travaux sont systématiquement surfacturés. Exemple, cette piscine facturée 40 millions d'euros alors qu'elle n'en a coûté que 15. Tous les jours, la presse indépendante révèle des affaires de ce genre. Mais il n'y a jamais d'enquête. Le procureur de la République est un fidèle du Premier ministre. En Hongrie, il n'y a pas d'oligarque. Nous bâtissons une bourgeoisie nationale, affirme Viktor Orban. Vous bâtissez une kleptocratie, réplique l'opposition. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
Le recours aux tests osseux sur des mineurs étrangers isolés est-il conforme à la Constitution? Les sages du Conseil constitutionnel rendent leur décision aujourd'hui sur ces examens très controversés réalisés pour déterminer si un migrant est mineur ou majeur. Mieux lutter contre les violences faites aux femmes grâce à un robot ou précisément un chatbot, un robot qui discute avec vous via une messagerie sur Internet. C'est l'idée d'une association pour aider les victimes de harcèlement ou de violence. Le principe est le suivant, le robot pose des questions et en fonction des réponses, les jeunes femmes sont conseillées, orientées vers les associations compétentes. Les explications de Valérie Cantier.
Lorsqu'une jeune femme s'adresse au robot via Messenger, la messagerie de Facebook. Il lui pose des questions sur les violences ou le harcèlement qu'elle a subi et lui propose des réponses prédéfinies. Prédéfinies car les jeunes femmes ont souvent du mal à trouver les mots pour décrire ce type de situation. En fonction des réponses, elle est orientée vers telle ou telle association, conseillée pour des démarches administratives, juridiques ou autres. Pourquoi un chatbot? Eh bien parce qu'un tiers des femmes agressées ont entre 18 et 25 ans, une tranche d'âge difficile à atteindre pour les associations autrement que sur Internet. Alexia Leron est présidente de l'association LCTERA.
Tout d'abord, elles ne connaissent pas le nom des associations. Elles ne savent pas forcément qu'elles sont victimes de violences. Elles ont un sentiment de culpabilité, voire de honte, et elles se sentent parfois même illégitimes à demander de l'aide. Et c'est vrai que les associations qui font un travail formidable, elles utilisent très peu les outils numériques, donc très peu les réseaux sociaux, Internet. Et c'est pourtant les outils que les jeunes femmes utilisent quotidiennement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce chatbot.
En moins de 2 semaines, le chatbot a déjà discuté avec une trentaine de jeunes femmes en Ile-de-France. L'objectif à terme et de couvrir tout le pays.
Un chatbot contre les violences sexuelles, c'est à retrouver également sur franceinter.fr. Le fléau des automobilistes qui roulent sans assurance. Selon un rapport publié hier, près de 31 000 personnes ont été victimes l'an dernier de conducteurs non couverts par les assurances, un chiffre en augmentation de 12% depuis 2013. Et puisqu'on parle de chauffards, sachez que le président du conseil départemental de Corrèze a été flashé, lui, à 173 km/h sur l'autoroute A20 il y a quelques jours. Pascal Coste, qui milite par ailleurs contre la limitation à 80 km/h, il risque jusqu'à 3 ans de suspension de permis. Il a au moins le mérite de la cohérence. 11 jours après le crash d'un Boeing 737 Max. Encore beaucoup de questions autour de cette catastrophe. Les boîtes noires sont en cours d'analyse aux États-Unis et en attendant les résultats de l'enquête, ces appareils 737 Max sont cloués au sol. Mais la presse américaine révèle 2 informations qui laissent penser que toutes les précautions n'ont pas pas été prises concernant la mise en circulation de ces avions fabriqués par le constructeur américain Gregory Phillips à Washington.
Un premier Boeing 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air s'était écrasé en octobre en mer de Java et la catastrophe avait provoqué la mort de 189 passagers et membres d'équipage. Le groupe d'information Bloomberg révèle que le même avion avait déjà failli s'abîmer en mer la veille de cet accident. Piquant du nez pour une raison indéterminée, les passagers du vol Bali-Jakarta n'avaient eu la vie sauve que grâce au réflexe d'un pilote qui, par hasard, voyageait dans le cockpit et qui a ordonné à l'équipage de couper immédiatement le système de stabilisation en vol de l'appareil, censé prévenir les décrochages de l'avion. Deuxième révélation, selon le Seattle Times, la FAA, l'Agence fédérale de l'aviation, a sous-traité une partie de la certification de cet appareil. Et à qui ? À Boeing. Faute de moyens, l'agence a en effet le droit, pour juger qu'un avion est sûr, de faire appel aux compétences techniques du constructeur. En clair, Boeing était à la fois juge et partie et a, selon le Seattle Times, accéléré les procédures. Le patron de l'aviation civile américaine sera entendu sur ce point la semaine prochaine par le Congrès. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et on termine, Sébastien, avec cette initiative du Centre National du Cinéma, former les citoyens de demain à décrypter les images.
Oui, le CNC qui a lancé depuis quelques semaines un atelier cinéma, un jeu dont le but est de familiariser de jeunes écoliers au langage cinématographique, cadrage, écriture de scénario, montage, tout y passe. Exemple dans cette classe de CM2 de l'école Guy Moquet de Nogent-sur-Marne, reportage d'Alexandra Hakoun.
Allez Sophie, on t'attend, tu ranges le cahier.
Troisième séance d'atelier cinéma pour les élèves de Cécile Toinen. On s'installe vite en petit groupe. Aujourd'hui, on s'attaque au scénario.
Donc la grande question, c'est évidemment, qu'est-ce qu'un scénario ? Scénario, ça vous dit rien ? Ah, attends.
C'est les dialogues ou le déroulement de l'histoire.
Donc, les dialogues, l'histoire, Léo ?
C'est tous les éléments du film qui sont sur papier.
Le scénario, évidemment, il va être très 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 long. On va le couper donc en séquence. Et la séquence, elle se déroule toujours sur un même lieu. Quand on change de lieu, on change de séquence.
Cécile Toinen.
On a commencé par le cadrage parce que c'est le plus facile. Quand on va voir des films, ils reviennent, ils disent « Oh, c'était nul, oh, c'était bien ». Ça s'arrête souvent là, donc il faut aussi développer le vocabulaire, essayer de voir s'ils peuvent avoir un esprit critique.
Alors, ça, où, là ?
Bah, il faut les mettre dans le bon ordre, les scénarios.
Développer l'esprit critique des adultes de demain, c'est exactement cela dont il s'agit et que souhaitait la présidente du CNC, Frédérique Bredin. C'est elle qui a eu l'idée de l'atelier cinéma.
C'est indispensable aujourd'hui dans un monde qui déferle d'images, qui comprenne l'impact des images, mais aussi comment elles se fabriquent et du coup aussi comment est-ce qu'elles peuvent être manipulées.
Grâce à une application qui vient compléter la boîte de jeu. D'ici la fin de l'année, les enfants devraient être capables de réaliser un petit film, de quoi peut-être même susciter des vocations.
Moi, mon métier, ce serait soit d'être sportif ou peut-être réalisateur, ça me permet un peu de m'entraîner.
Voilà, bien, bon courage. Alexandra Hakoun, son reportage. 4000 écoles ont déjà reçu ce jeu et d'ici la fin de l'année, c'est l'ensemble des 37 000 écoles de France qui auront accès.
Merci Sébastien Legénie. Deuxième point route, Caroline Pommès avec un accident dans le Bas-Rhin.
Oui, accident sur l'autoroute A35 si vous arrivez d'Allemagne direction Strasbourg. Accident entre deux voitures à hauteur de Vendenheim. Attention, il y a déjà des ralentissements sur 2 km. En Moselle, accident au nord de Metz entre trois voitures sur l'A31 direction le Luxembourg. La voie de droite est fermée à hauteur de au concours.